responsabilité, comme Jean Saud dit dans l'émission, qui au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, c'est quand même environ 90 pays membres, de l'Asie, de l'Afrique, et Moyen-Orient, Europe de l'Est, donc nos responsabilités et très larges, mais nous regardons toujours sous Haïti quand même, pas gagner justifié, c'est pas passer à Haïti. Parce que nous travaillons dans un contexte très difficile. Syrie, Yémen, Liban, c'est des contextes extrêmement difficiles, mais il y a un minimum qui fait quand même le côté ça capable de faire. Nous autres faisons pratiquement 3-4 années dans le pays. Hein. C'est pratiquement très peu de jours de classe qui fait.
On soutient une nomination là, hein, et il faut pointer aussitôt que moi, le premier bagage que je fais, Mando, est-ce qu'on est capable avec nous, journée, jeudi, samedi, hein, pour nous partager ça avec la communauté en fait qui a coûté nous de partout. Ça incombe quand même une très grande responsabilité.
Oui, effectivement, c'est James Sondjouan et Global Partnership for Education, c'est le plus gros fonds d'éducation sur la planète là qui est dédié à pays à faire revenu. Et dans le siège, c'est Washington, le deuxième bureau qui est Paris, et pratiquement. Conseil d'administration avec tout gros organisme d'éducation qu'on connaît, de l'UNESCO en passant par l'Union européenne, en passant par les agences américaines, y compris tout bloc asiatique. Donc, ce sont très larges partenariats multisecteurs sur spécialisés en éducation. Et dans ce sens-là, nous sommes réélus au niveau du comité finance et non contexte COVID-19. Côté actuellement, nous avons levé de fonds international qui est fait à Londres le 28-29 juillet et qui est pratiquement présidé et co-présidé par le Premier ministre Boris Johnson avec le président Kenyatta du Kenya. Donc, à la fois, ces deux présidents qui co-sponsor l'activité ça, parce que l'ambition. Partenariat mondial pour l'éducation pour les 5 prochaines années, c'est arriver, renforcer, aider différents pays qui ont difficulté, renforcer la rupture que nous constatons au niveau de continuité éducative, hein, parce que, je vous dis, hein, COVID-19 là, crée un paquet de bouleversements dans le calendrier scolaire. Hein, en plus, le pays obligé de faire virage à investir dans, que ce soit, enseignement à distance, radio, télévision ou bien plateforme numérique, ça n'est pas capable d'obliger quand même prendre des dispositions pour que l'école là continue avec les moyens du bord. Donc c'est accompagner le pays, ça, mais surtout, formation enseignants, son domaine clé, un axe prioritaire pour le partenariat mondial pour l'éducation.
Professeur Maniga, c'est toujours avec un grand plaisir que nous recevons dans l'émission. Hein? Et n'a pas dit merci pour tant ça à comprendre. Nous ne pouvons pas qui côtoyer. Et puis, je ne crois que c'est ça qui est important. C'est surtout ça que vous avez dégagé et responsabilité que vous gagnez et sentiment profond que vous gagnez pour votre pays qui c'est Haïti.
Moi, toujours très. Et je n'ai jamais hésité à répondre à l'invitation parce que je peux vous dire même c'est un grand éducateur, vous voyez, et le travail qu'on va faire, son grand travail d'éducation et de culture que vous c'est vous que vous dans les avions entre deux aéroports, et malgré COVID-19, et parce que mission est en pile, et même pas Haïti, c'est vrai aujourd'hui, hein, et responsabilité hein, mène de plusieurs côtés, mais ça qui est important, madame a dit, c'est que dans la situation pays aujourd'hui, hein, pas grand pile bagaille que nous sommes capables de faire aujourd'hui hein, comme peuple pour aider nous sortir à moyen et long terme. Que nous savons, c'est bail pays ça, côté 70% de monde qui a 35 ans, côté la moitié qui est moins que 25 ans, opportunité pour apprendre, éduquer, former et grand métier. C'est la seule façon pour nos jeunesse qui n'est pas vulnérable. Vulnérable pour que politiciens ou bien n'importe quel monde dans la société mettent des armes dans les mains. Et à ce moment-là, c'est tout dérapage que nous avons vu dans le pays aujourd'hui, qui est un pays presque invivable, d'après tout ça, tout ce qu'on attendait. C'est parce qu'une grande partie de nos jeunesse vulnérable et même vulnérable est disponible pour toutes sortes d'aventures, les pires comme les meilleurs. Et nous avons souhaité que c'est le meilleur que nous prenons.
Nabdou, merci. Bon courage. Kembe Palagé.
Merci.
Professeur Nesmi Maniga, passé de présentation que nous sommes là, nous allons faire une pause, nous allons tout à l'heure.
Nous sommes en train de faire l'expérience de l'enfer. Et dans l'enfer, je pense qu'il n'y a ni bon ni méchant. Il y a un sauve qui peut, ou dans une ambiance de guerre de tous contre tous. Dans le fond, celui qui va à l'école, ça veut dire qu'il a les moyens de le faire. Des moyens qui sont presque une sorte d'arrogance par rapport à celui qui, derrière sa barricade, estime qu'il n'a rien. Si vous voulez, c'est comme si on avait brassé une mare pour faire monter la lie à la surface, et après tout est trouble, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de... Et je comprends que cette dame ait pris la poudre d'escampette pour se mettre à l'abri, parce que j'ai fait exactement la même chose qu'elle. Ces 6 mois d'inactivité, moi je les ai vécus directement, c'est-à-dire en l'absence de ressources. Comment fait-on dans un pays loc, dans un pays où tout est bloqué, dans un pays où il faut payer pour passer les barricades, pour aller ne serait-ce que faire quelques courses? Et je pense que le pire, c'est lorsque la scolarisation participe presque d'un acte criminel. On a presque mauvaise conscience d'amener son enfant à l'école. On est obligé de se cacher.
Dans un pays où le taux de scolarisation, c'est moins de la moitié de la population, hein, 48% de taux de scolarisation, c'est très peu.
C'est très peu, et dans un pays où l'avenir dépend justement de cette jeunesse qui, si elle n'apprend pas à lire et à écrire, n'aura pas les moyens de faire face aux défis.
Tu devrais aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 59 65 rue Bélanger, coin Lacordaire. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
J'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu.
Alors, c'est toujours un grand plaisir pour nous gagner Wilson Saint-Elmé avec nous, professeur à l'Université Sherbrooke. Comment se mène l'entrée, professeur Wilson Saint-Elmé?
Bon, ce n'est pas si mal, comme d'habitude. Donc, nous souhaitons, avec toute l'équipe-là, une bonne émission.
Merci. À l'exception que nous sommes capables de dire, le nom est ça qui a passé en Haïti. Nous ne sommes pas capables d'être contents. Kidnapping, il prend toute qualité monde, et surtout, le nous connaît. C'est le président de facto, le mandat est fini depuis le 7 février 2021, qui s'associe avec les chefs de gang, même le que Américain mandé pour yo bail gang qui nan kidnapping et captouye moun, qui s'est associé président, premier ministre, madame président, eh bien, nous avons une situation les plus raides. Même les prêtres qui ont été kidnappés, eh bien, étaient encore aux mains des kidnappeurs qui sont passés de tout ça, professeur Saint-Elmé.
Oui, ça nous pense de tout ce qui est passé en Haïti actuellement. C'est parce que nous croyons que le pays a pu fonctionner dans un vacuum institutionnel total. Et étant donné que l'État s'est complètement effacé et désinstitutionnalisé, ce sont les banques, armées, les bandits, les gangsters qui ont pris la place de l'État. N'est-ce pas vrai qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide? Face au vide institutionnel, il y a les carreaux, et dans ces carreaux, les gangs, les voyous, et même ceux qui ont un penchant quelconque vers la dictature, trouvent leur compte. C'est ça qui a passé en Haïti, là. Parce que, soyons capables de dire en toute sincérité, le pays n'a pas déjà arrivé dans un stade de vacuum institutionnel à ce point tel que celui auquel nous assistons aujourd'hui.
Alors, et le Longadé, ce maintenant, en dépit de tout, nous capables de dire que gagnait-il lieu d'espoir à Wilson, le Noé 68 sénateurs démocrates et républicains qui sensibilisaient le président des États-Unis sur la crise que traverse Haïti actuellement avec les criminels au pouvoir, côté que nous avons tombé chaque jour dans le pays. Nous pas jamais présenté devant leur juge naturel parce que Mounsayo, c'est eux qui mettent en palais national.
Oui, lorsque des élus et des représentants du peuple américain trouvaient nécessaire pour leur écrit président, pour interpeller lui de ce qui a passé en Haïti actuellement, c'est déjà un mauvais signe. C'est le signe du pourrissement de la situation en Haïti lorsque ce sont des corps étrangers qui s'érigent en contre-pouvoir vis-à-vis d'un gouvernement dit illégitime, parce qu'au fond, il n'y a aucun consensus, il n'y a pas de base de légitimité populaire pour la plupart des administrations qui se sont succédées en Haïti depuis la dernière élection de Jean Betraz. Je vous dirais, cette exception-là, cet état d'exception, je vous dirais, n'est pas propre à Jovenel Moïse. C'est-à-dire, depuis très longtemps, il n'y a pas de légitimité démocratique, il n'y a pas de légitimité populaire en Haïti, parce que les organisés, les mascarades électorales, ce n'est pas vraiment une élection qui mobilisait une bonne partie de la population haïtienne. Parce que, si vous comprenez bien, Raymond, Jovenel Moïse est élu avec moins de 600 000 voix. Donc, c'est tout de même absurde que l'on parle de démocratie en Haïti pour une population de 6 et 12 millions de personnes à peu près. Et si on compte la diaspora, nous sommes presque 15 millions. Pour revenir à la question que vous posez exactement, c'est que lorsque c'est des congressmen américains qui a pointé sur les barricades symboliques pour réclamer qu'il y ait un gouvernement responsable en Haïti, qu'il y ait respect des droits humains en Haïti, qu'il y ait une prise de conscience que la crise que vit Haïti se rapproche du seuil du chaos, lorsque ça arrive, c'est l'échec haïtien qui est mis en évidence. Et cet échec-là n'est pas juste l'échec de Jovenel Moïse, c'est l'échec aussi de tous les Haïtiens, y compris sa cap des diaspora et autres. Donc c'est là, on assiste à la mort symbolique de la République d'Haïti, de l'État haïtien, de la société haïtienne, lorsque ce genre de choses-là arrivent. Bien que ces parlementaires y ont animé, ils ont bonne intention, mais vraiment, les bagages sont arrivés pour que ces étrangers, capitaux, nous manquer le vivre ensemble, que nous passions à côté de quelque chose d'essentiel. Et en même temps, nous avons essayé de dire que nous fiers que nous sommes un peuple indépendant, nous sommes un peuple souverain, nous avons réalisé un exploit qui inédit, qu'aucun autre peuple n'avait réalisé auparavant. Tout ça, on l'a envoyé par des supports pour évoluer dans la honte, dans l'indignité, et même, je vous dirais, dans une crise permanente des gouvernances. Donc, ce n'est pas de bons signes, ce n'est pas de bonnes nouvelles pour le pays, Raymond.
Mais en même temps, il faut qu'on dise que nos héros ont toujours eu des gens qui les ont trahis. Donc, pas tant pile, mais ça existait. Et je vous dis, c'est ça que nous avons fait là. côté que Mounsaïo, les fatras, que nous récapitulons les pays, quand que nous pas jamais connaît l'histoire d'Haïti. L'histoire des gens qui ont combattu contre les grandes puissances et qui ont aidé autour à gagner leur indépendance.
Oui, exactement. Une chose qui est importante pour moi, je crois que les politiques qui étaient responsables de la transition entre les départs des Jean-Claude Duvalier et les chaos auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est supposé opposition, ou opposant, je veux dire, cette supposée opposition à la dictature de Duvalier qui ne faisait que s'opposer, devait, à mon avis, cette opposition-là, l'opposition historique, je dirais, si vous me permettez d'utiliser cette expression, vous croyez que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus signifiant aussi que d'utiliser l'expression opposition historique à la dictature. Les membres de cette opposition s'aggrivent encore à représenter exclusion au peuple haïtien. Parce que ce à quoi nous avons assisté, nous avons vécu pendant 29 ans sous une paix de cimetière pour remplacer cette paix de cimetière par le cimetière lui-même. C'est-à-dire Haïti est devenu une tombe après le départ des Jean-Claude Duvalier, une tombe qui est en train de se vider de la carcasse même qui demeurait de la société haïtienne. C'est ce à quoi on assiste. Parce que à l'époque, on aurait dû nous poser la question, quel genre de transition voulons-nous? Parce que ça n'a pas existé là, je dis à Raymond, c'est l'aboutissement d'une transition ratée. C'est l'aboutissement de l'échec d'une certaine opposition historique. Moi, j'ai grandi en Haïti sous la dictature. Je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi et où j'ai fait toutes mes études secondaires. Si bien que Haïti est l'ombre de ce qu'il était avant 1986. Donc, nous faisons pour nous poser une série de questions. Je crois que Leslie Maniga avait très bien résumé la situation haïtienne à partir du troisième tome de son éventail d'histoire d'Haïti, lorsqu'il avait dit « Haïti a raté deux processus, le processus de la modernisation et le processus de la démocratisation ». J'ajouterais aujourd'hui qu'Haïti n'a pas seulement raté le processus de la démocratisation, Haïti est tombé en dépérissement, Haïti est tombé dans une sorte d'abîme abyssal après les renversements de la dictature de Duvalier, et Jovenel Moïse, Michel Martelly et compagnie,
les Laurent Lamothe, les Gary Lissade.
Voilà, exactement. Sont les symptômes mêmes de cette décrépitude, non seulement des institutions en Haïti, mais de l'être haïtien lui-même. Si bien aujourd'hui, vraiment, que les criminels n'hésitent pas à profaner les églises, que les criminels n'hésitent pas à kidnapper au vu de l'État, que l'État est mis en déroute en Haïti, la police a été récemment mise en déroute par les criminels qui exercent une violence armée supérieure à la violence de l'État. Max Weber disait que l'État est par essence l'institution qui doit exercer le monopole sur la violence armée. Aujourd'hui, cette violence armée, l'État est dépossédé de sa capacité d'imposer sa volonté. Ce sont les gangs qui disposent du rapport de force et qui imposent sa loi à l'État. Et l'État est devenu tellement faible dans ce pays-là que cet État s'est vu obligé de souscrire à la logique du gangstérisme. C'est un renversement inédit du rapport de force en Haïti. Donc, il y a eu une certaine violence. Le pays a toujours été régulé par la violence. Mais cette violence était une violence étatique, qu'elle soit structurale ou symbolique. Elle a toujours été une violence des élites. Aujourd'hui, elle n'est plus entre les mains des élites. elle a été récupérée par des criminels, si bien que le président de la République se voit obligé de souscrire à cette logique du gangstérisme, à cette logique du banditisme, à cette logique même du kidnapping, parce que les politiciens eux-mêmes se sont payés les services des professionnels du kidnapping, de la violence, etc. Et ça, vraiment, c'est toute l'élite haïtienne, c'est tout le peuple haïtien, c'est tous les membres de la grande famille haïtienne qui devraient se regarder dans un miroir et dire comment on a pu en arriver à ça.
Vous parlez que vous êtes fait sur la dictature, moi-même tout, même le plus jeune Bafféon. Alors, là, nous connaissons, par exemple, le régime de Duvalier, des Duvalier père et fils, massacre hein, qui était fait. Mais il faut que nous ayons le courage pour nous dire, ça n'a pas aujourd'hui. Hein. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, et surtout, comme n'a pas fait l'histoire en tout, n'a pas fait l'analyse politique. Hein. Il ne faut pas oublier dans la semaine, non, c'est un grand événement qui est passé. Côté que sous Duvalier, eh bien, tu as gagné l'autre taureau qui t'a collaboré avec lui comme général. Eh bien, finalement, il était mort. Et tu as gagné pile l'autre qui était mort. On a parlé de Clément Barbeau en 63. Mm-hmm. Et le nom gardé, tu as gagné des têtes qui t'est tombées. Il faut moins dire que moi-même, moi, j'ai des proches parents. Pas parents achetés, non, proches parents, côté que j'étais non chantant dans la plaine, du côté de SAP. Et nous gagnons un médecin, nous gagnons des professeurs. Eh bien, Léo rentré dans la prison, les a pris Léo par numéro. Eh bien, il fait au moins 100 euros. C'est des hommes connus. Nous avons la famille Bouchereau. C'était quand même très victime. Et nous avons tant d'autres. Alors, le peuple, il est oublié côté qu'il sortit. Il n'est pas qu'à côté côté lié et ni qui côté qu'il voulait.
Ah, mais non. Et surtout, il y a beaucoup de vérité bafouée dans ce pays-là. Ah. Ça me parle de la réponse, peut-être ça mettait un peu le monde dos à dos avec moi, mais donc un problème, nous pas capables de considérer à la juste valeur ça donc est bon et ça donc est pas bon, nous pas un sens critique objectif là, nous pas quand même. Duvalier avait ses propres lacunes, mais les régimes avaient ses points forts aussi. Jamais vous allez entendre un des intellectuels ou l'opposition haïtienne vous dire qu'effectivement, c'était une dictature sanguinaire. Nous sommes d'accord, on ne peut pas absoudre les Duvaliers, on ne peut pas oublier la cruauté de ce régime. Mais au-delà de cette cruauté, quelle a été la performance sociale, économique et institutionnelle de ce régime-là? Rien à comparer avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
On avait une dictature dure, mais on avait un pays qui se faisait respecter par le dictateur.
Vraiment, dans les années 80, l'essentiel des balles de baseball et des golfs qui étaient fabriquées et qui étaient vendues en Amérique du Nord, au-delà des 85%, étaient fabriquées en Amérique. L'industrie de la sous-traitance était beaucoup mieux implantée en Haïti qu'en République dominicaine. Le tourisme fonctionnait relativement mieux jusqu'à dans les années 75-80 en Haïti qu'en République dominicaine. Eh bien, nous avons subventionné, et je ne dirais même pas subventionné, nous avons dompé par notre stupidité et par notre crétinisme l'industrie touristique en République dominicaine. À un certain moment donné, la République dominicaine nous fournissait des prostituées, nous on fournissait des bras productifs à la République dominicaine. Aujourd'hui, nous fournissons et les bras productifs, mais nous fournissons aussi des capitaux, et l'essentiel de l'élite haïtienne habite en pratique en République dominicaine. À l'époque de la dictature, il y avait une véritable classe moyenne qui investissait dans ce pays-là, qui voyait l'horizon même de sa vie à travers le pays, et qui était là comme des sédentaires, parce que c'était des gens qui ont bénéficié de la dictature. Eh bien, cette classe moyenne émergente, du valérien ou du valériste, si vous voulez, elle s'est exilée après les renversements des Duvaliers. Mais aussi, la crème d'Haïti s'est exilée également. Et la place a été cédée à qui? Aux Syro-Libanais. Les diviseurs, les gens qui sont capables de diriger ce pays-là, sont à l'étranger. Et que restait-il pour diriger le pays? Soutenir qui? Jovenel Moïse, à Barbecue,
et la Trier,
je pense, et la Trier. De telle sorte que l'on se retrouve dans l'incapacité de réfléchir notre destin collectivement. Mais ça, ce n'est pas la faute du peuple haïtien. La responsabilité, l'échec de la transition, parce qu'on ne peut pas, il est impossible de sortir de la période 1986-2020. Impossible. On ne peut pas faire le bilan du chaos qui régule ces pays-là aujourd'hui. On ne peut pas le faire en imputant la responsabilité à ceux et celles qui ont dirigé le pays avant 1986. Parce qu'on parle des 4 décennies de transition ratées. Et personne n'assume la responsabilité de cet échec. Personne.
Mais bon, bagaille que nous devons souligner quand même. Et comme nous connaissons que nous avons le père et le fils au pouvoir, Jean-Claude Duvalier, quand il faisait constat de sa dégringolade et crime qu'il a commettre, qui ça l'était fait? Il était plié bagage pour éviter un banc de sang. Alors, ses apprentis dictateurs, ces de facto, ils n'ont pas gagné aucune forme de conscience. C'est riche, ils sont rentrés pauvres, et qu'on y a eu multimillionnaire. Ça a construit, celui qui a construit de grands hôtels à l'extérieur du pays, pendant ce temps que Haïti a marché dans la fatra. La pauvreté, la criminalité, et là nous gardons, nous gagnons un bullshit. Que on dit qu'il c'est ambassadeur de facto à Washington DC, qui permettent lui la blâmer les républicains qui étaient signé une lettre voyée par le secrétaire d'État américain. Et monsieur fait mention les recommandations du président en Grégory Mix au secrétaire d'État Anthony Blinken, demandant à ce dernier de réévaluer la politique américaine en Haïti. C'est pas droit. Il y a vivre en démocratie, nous-mêmes nous vivons dans la sauvagerie, dans la criminalité.
Oui, exactement. Et puis, je crois que la meilleure chose à faire par le représentant diplomatique en Haïti, c'est de dire à ses patrons ou à son patron que, vu de l'extérieur, il est un passif pour le peuple haïtien. Regardez ce qui s'est passé avec l'ambassadeur de la Birmanie aux Nations Unies. Il a pris acte, fait et cause pour la démocratie, pour les intérêts supérieurs de son peuple. Je crois que l'élite haïtienne, je ne parle pas nécessairement de Jovenel Moïse, parce qu'à mon avis, il fait partie des symptômes, il n'est pas la cause, même pas l'architecte de son avènement à la présidence d'Haïti. L'arrivée de Jovenel Moïse a été préparée de main de maître, comme des artistes, par l'opposition historique d'Haïti. Par cette opposition qui a lamentablement échoué la transition. Ce sont ces bien-pensants qui ont trouvé la bonne formule de mettre la diaspora haïtienne sous embargo avec leur constitution de 1987, ce sont les vrais architectes du fiasco auquel nous assistons aujourd'hui. Donc, l'échec d'Haïti, l'échec du Jovenel Moïse, l'arrivée des Sweetniki au pouvoir, la course d'Haïti vers la déchéance, c'est un affront pour l'intelligence haïtienne. C'est un affront pour le peuple haïtien. On ne peut pas ne pas être triste d'observer dans quelle situation lamentable, dans quelle indignité que se trouve Haïti aujourd'hui. Et nous faisons partie, nous vivons cette indignité également, parce que vous le vouliez ou non vraiment, la diaspora haïtienne vivant dans des sociétés démocratiques est toujours en lien avec son pays d'origine. C'est-à-dire, à travers ce qui se passe en Haïti, il y a un effet des miroirs qui fait en sorte que l'autre vous regarde quand il vous croise ici, soit à l'université. Quand un collègue m'interpelle pour me dire « Mais ça ne semble pas aller bien dans votre pays d'origine, M. Saint-Elmy », eh bien, ça m'affecte profondément. J'aurais aimé mieux être du Rwanda lorsqu'on me pose cette question. On n'a aucune fierté à s'afficher ou à afficher son haïtianité, puisque cette haïtianité est en déroute. De telle sorte que Jovenel Moïse lui-même, ses projets, ses dérapages, ces gouvernements qui confondent changement de constitution et changement de régime et changement de la constitution, qui sont trois choses différentes, et c'est une honte pour le pays, mais c'est aussi une honte pour tous les Haïtiens, y compris nos compatriotes qui nous écoutent dans à travers cette émission de ce samedi. Eh bien, la honte, elle est collective. L'ambassadeur d'Haïti ou l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis ou l'ambassadeur d'Haïti au Canada devrait travailler de préférence avec l'opposition, et pas l'opposition, avec la diaspora haïtienne pour aider à sortir Haïti de l'indignité au lieu de représenter un gouvernement indigne auprès des gouvernements de cette société où nous vivons aujourd'hui. Je crois que il n'y a pas de honte à travailler pour son peuple et non pas pour son gouvernement, à travailler pour la dignité de sa société et non pour son hypothèque, à renoncer à sa carrière, comme Lucien Bouchard l'a fait, comme Brand Mulroney l'a fait, comme Jacques Parizeau l'a fait, comme Bernard Landry l'a fait, et comme François Legault est en train de le faire, comme Dominique Anglade est en train de le faire à la tête du Parti libéral, comme tous ceux, Justin Trudeau, etc., comme tous les leaders du monde développé qui ont renoncé à leur propre carrière pour défendre des causes qui vont faire avancer leur société. Qu'est-ce qui fait qu'Haïti ne peut pas produire ces genres de gouvernements? Qu'est-ce qui fait que nous méritons des Jovenel Moïse, des René Préval, des Jean-Bertrand Aristide, des Jovenel Moïse, des Sweetniki? Qu'est-ce qui nous vaut ce déshonneur de toujours produire des monstres pour diriger la société haïtienne alors que le pays s'enfonce dans la misère? Il faudra faire cette réflexion tôt ou tard.
Moi-même, moi, j'ai une petite habitude dans les couloirs hein, des grands au Canada, que ça que des premiers ministres, des conseillers et des premiers ministres. Bon, bagaille, je ne peux pas comprendre. Moi, je me dis, est-ce que y a des recherchistes qui ont sorti des articles qui sortent, soit qui ont condamné ou critiqué? Je parle pour les amis auditeurs, auditrices qui côté nous. Est-ce que nous connaissons que chaque chef de parti, ou bien qui est responsable à un dossier, avant que le fonds intervention, soit au Parlement canadien, ou à l'Assemblée nationale à Québec, il y a un rapport devant sur tout article qui est sorti. Pour l'enriver, pour ne pas m'amorter, quand Jean-Jovenel Moïse, le de facto, t'es devant la représentante permanente des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadrice Kelly Knight Raffa. Bah, quand on se songe ça, on connaît qu'on a une bonne mémoire, côté que l'État encourage Jovenel là. Il doit prendre engagement pour répondre aux besoins les plus urgents d'Haïti, à promouvoir la prospérité économique et à bâtir un avenir meilleur pour tous les Haïtiens. Écoutez, il mettait l'accent sur la nécessité de doter le pays d'un gouvernement, dit-elle, pleinement opérationnel afin de lutter contre la corruption, enquêter sur les auteurs d'atteinte aux droits humains, y compris les responsables tués de la Saline et de Bel Air, et poursuivre les auteurs en justice, ainsi que lutter contre les stupéfiants et le trafic d'êtres humains. Wilson Sedalmi.
Bien, pour que le président haïtien, quel que soit le président Napalia, il y a un seul là dans l'eau qui a la capacité de faire ça, c'était Leslie Maniga. Malheureusement, Leslie s'est laissé piéger par l'appétit du pouvoir et a aussi en partie participé au dérapage de la transition. Mais il avait tout de même l'intelligence pratique, mais aussi l'intelligence conceptuelle pour implanter ce genre d'institutions en Haïti. On prête à ce pays-là des ambitions qui sont au-delà de ses capacités aujourd'hui. Vraiment. Moi, ça me fait toujours rire et même réfléchir en même temps de dire pourquoi les Haïtiens décident d'acheter ou d'importer, comme ils le font pour les produits, pour les commodités, des doctrines, des concepts, des idéologies. On n'arrivera jamais au stade de développement du pays actuel vraiment à mettre en place. Y compris la nouvelle constitution qu'on est en train de faire avaler au peuple haïtien. La constitution de 1987 n'est pas faite pour un peuple comme le nôtre. Et la constitution qui est en chantier également ne l'est pas non plus. Parce que nous ne réfléchissons pas nécessairement sur la correspondance entre le développement intellectuel et le type d'institution que nous voulons implanter dans ce pays-là. Je vous prends un exemple, moi. Expliquez-moi pourquoi l'institution de la dictature était plus performante en Haïti que celle de la démocratie. C'est pour une raison très simple. Le type d'autorité incarné par la dictature en tant qu'institution correspond davantage au niveau de développement du peuple haïtien. C'est très lucide ce que je suis en train de te dire, Raymond. Dans les études comparatives qui ont été faites à date au niveau des régimes institutionnels, eh bien, le bilan il est le suivant. La démocratie suit le développement économique et non pas l'inverse. La démocratie n'est pas la condition du décollage économique, c'est l'inverse. Le décollage économique, c'est la précondition de tout processus de démocratie, de démocratisation, en tout cas de tout processus de transition vers la démocratie. Parce que la démocratisation, c'est un processus permanent. Ce qui s'est passé aux États-Unis l'a bien démontré qu'il n'y a pas de démocratie accomplie définitivement une fois pour toutes. C'est un processus qui demande la vigilance institutionnelle, une vigilance permanente. Mais que vous preniez, Raymond, n'importe lequel des pays nouvellement industrialisés, il n'y en a aucun qui s'est développé en contexte démocratique. Y compris l'exemple du Chili. Le Brésil contemporain a été mis en place par le Brésil des colonels dans les années 30. La Chine contemporaine n'est pas une démocratie. La Corée du Sud, exactement la même chose. Les Philippines, les dragons, etc. il n'existe pas des conditions historiques qui ont confirmé que la démocratie pouvait naître dans un pays aussi pauvre qu'Haïti. Dans un pays où 80% des gens sont analphabètes et ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est que la démocratie, encore moins qu'est-ce que c'est que les droits démocratiques. Ça se peut-tu vraiment, en bon québécois, que nous marchons sur la tête au lieu de marcher sur les pieds?
C'est triste, le Nougadé, en série de pays et dans la communauté africaine que nous capables de dire, qui a placé Macron dans Wally, côté de la funéraille, je crois au début de cette semaine, eh bien, M. Tévété bouche bée, parce que le dossier qui sortit dans un pays africain, il est le grand responsable. Et nous, ouais, qui côté qu'on y a pays sahara, l'a développé en termes de technologie. Donc, capable de dire, quatrième, il y en a plus grand dans, et, au niveau de technologie, et Wilson. Et moi, ton père, ton frère en a bénéficié également. Et en parlant de ton frère, je dois l'inviter. Ça, c'est peut-être une primeur que m'a baillé à la communauté, même les mouvements dans le secret des dieux, pour sa nouvelle nomination approuvée par le Conseil des ministres du Québec. Alors, on a quitté cela, le nous gagne avec nous.
Tout à fait. Donc, ce que tu dis vraiment est vrai, c'est encore un autre exemple. On ne fera pas passer normalement le Rwanda pour une démocratie, mais il y a un régime qui a les colonnes vertébrales pour faire avancer le pays. Et par les exemples que j'ai pris tout à l'heure, j'ai omis la République dominicaine. La République dominicaine contemporaine a été mise en place sous le régime du Trujillo.
Et nous, la République dominicaine a continué à avancer. Et le nous, que les États-Unis a aidé pour faire réforme de la police. A aidé pour faire réforme de la police. Mais cependant, les États-Unis connaissent que en affaire avec le monde qui veut mes pays, qui voulait ouais, parce qu'ils disent que Abinader est en harmonie entre les administrations américaines et dominicaines qui considèrent la sécurité des citoyens comme un élément commun. Ça que nous pas ouais pour les apprentis dictateurs, les voleurs, les lapidateurs de la richesse haïtienne.
Bien. Ils sont même vraiment incapables de copier ou d'imiter ce qui se fait de l'autre côté de la frontière, voire faire une étude stratégique de l'ensemble des petits pays de la Caraïbe pour pouvoir positionner Haïti, mais ça n'arrivera jamais. Et je crains qu'il ne soit trop tard, parce que la déchéance, elle est tellement fatale que ça prendra une véritable médecine de cheval à choc thérapeutique pour remettre Haïti sur ses pieds. Parce que, contrairement à ce qui s'est passé en République dominicaine, à la chute de la dictature des Trujillo, on a su conserver les institutions valables qui ont émergé pendant la dictature, tout en évacuant les institutions dont on ne voulait pas et qui étaient incompatibles avec le développement du peuple dominicain. Alors qu'en Haïti, on a tout jeté. On a tout envoyé à la poubelle, y compris la classe moyenne haïtienne qui était tout même et qui demeure encore le pivot de tout développement dans ce pays-là. Cette classe moyenne aujourd'hui se retrouve dans la diaspora, se retrouve en exil, etc. Il n'y a plus de gens en exil au moment où l'on se parle. Il n'y a plus d'Haïtiens qui vivent en exil vraiment qu'à l'époque de la dictature. On était une toute petite minorité au Canada à l'époque des années 80. Je n'ai pas dit qu'il fallait que la situation demeure, mais n'empêche qu'il y a une bonne partie de la classe moyenne haïtienne qui se retrouve aujourd'hui au Québec, une autre partie en Floride, une partie en République dominicaine et ailleurs dans la Caraïbe. Donc, c'est dire que il est très difficile aujourd'hui de blâmer uniquement les étrangers, nous avons été aussi les fossoyeurs de notre propre tombe post-dictatoriale. J'espère qu'on ne prêtera pas l'idée de faire l'apologie de la dictature. J'espère qu'on ne prêtera pas l'idée de dénigrer le processus de démocratisation du pays. Non, je ne suis pas là. Je fais juste rapporter un constat fait par la recherche comparative qu'à l'effet que l'ensemble des pays nouvellement industrialisés l'ont été pas sous un régime démocratique, mais sous un régime progressiste et dans la plupart du temps paternaliste, mais de bons gouvernants sur le plan économique.
C'est sur cette note, cher ami, que Nabdou merci et puis Nabdou souhaitez-vous une agréable fin de semaine. Et Nabdou continue de prier pour Haïti.
À toi aussi, Raymond, et à l'ensemble de l'auditoire de votre célèbre mission.
Professeur Wilson Saint-Elmy, que nous sommes tendus là, nous prenons pause et puis nous retournons tout de suite après.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privés sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Bonsoir Raymond, bonsoir à toutes les amis auditeurs, auditrices Radio CK8TO, toutes fanatiques émission samedi midi inter. Mes nouvelles qui abdominent l'actualité en un plateau central pour ce maintenant. Ronaldo Thomas, Gabriel Eliassin et Maudley Bernier, c'est nos trois jeunes garçons saillants qui se moun la Skaoubas, département centre, qui kidnappé dans la zone en Babon Cabrit dans date 26 avril 2021. Gang 400 Marouzo qui a opéré dans le coin des bouquets revendiqué kidnapping Sila, côté où déjà mandé 1 million de dollars pour seulement youn dans jeune Sila. En signe de protestation et de solidarité, un groupe citoyen dans la commune Lascaubas organisé une manifestation dans date 29 avril 2021 pour mandé kidnapper yo pour qu'il soit capable de laguer trois jeunes garçons qui en bas main yo. Depuis mis en balai Haïti, la plaque tournante du plateau central, Sadrax Ulysse. Pour Radio CKUT, Montréal, Canada.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Bonsoir Raymond, bonsoir Pierre Boudré, bonsoir tout auditeur, auditrice. Samedi midi inter, c'est toujours un plaisir pour moi-même, Georges Gabriel Paul, pour me présenter nous. Fait qu'à dominer l'actualité dans le département Grand Est là. N'apprendrez tout de suite dans la question insécurité. Eh bien, Raymond, on voulait recommencer dans ville Jérémy plus précisément pour venir faire la loi côté que grand pile vol à mer mais qu'a fait surtout dans niveau zone qui est les Caracolia côté que plusieurs monde victimes et gagne une nayo qui très connu qui sont pharmaciens et qui gagne pharmacie dans ville Jérémy qui c'est et Francis Louis, et ben pendant libéral travail libéral prend bus pour aller dans l'autre département voler à les âmes yo même fait feu bon Dieu merci bal là pas prend li mais yo pote aller et moto et valise qui était dans mali donc dans même semaine dans toujours voler rentrer caille yon l'autre jeune femme qui a fait business dans ville là qui c'est Judeland Michel et ben yo pote aller tout ça yo était besoin. Donc ça yo quitté, c'est ça yo pas besoin. Y aller en toute et sans problème en toute quiétude, yo boté toute ça dame dans la caille et jusqu'à présent la police pour que j'en dis rien sous situation ça que ville Jérémy a fait face côté que volait et surtout au niveau Caracoli côté que gagne pile vol armé armé qu'a fait dans zone ça et nous braler dans insécurité routière côté que on l'autre fois encore un jeune garçon perdu la ville dans ville Jérémy dans un accident machine c'est un chauffeur une communauté protestante qui est El Shaddai et ben sur route aéroport là pendant machine est tombé dans trou qui sous côté route là et ben semblait chauffeur t'a essayé garder pour essayer de cagé t'envoyer voyer col en bas et ben malheureusement machine a tombé sous l'île et littéralement dernier souffle et en bas machine et nous bral garder tout qui gens et affaire kidnapping là impacté la victime marchande dans département Grand'Anse et ben depuis dimanche dernier marchande Jérémy t'est bloqué le niveau Tigouave et Raymond côté que suite à un kidnapping qui fait dans Port-au-Prince sous un kazek dans une localité dans Tigouave ben mon Tigouave s'est décidé bloquer route là et ben toute marchande qui sorti dans département Grand'Anse Pestel Tamari Abricot et dans d'autres zones encore dans département et ben yo tout est privé bloqué depuis dimanche et au niveau Tigouave côté que tout ça yo poté t'es presque perdu surtout et des bananes et yam tayo qui prend soleil yo ça qui mu et même marchand yo jour qui était mercredi t'es manifesté solidarité yo avec décision mon Tigouave prend pour protester contre kidnapping avec ça et machin yo te rappeler autorité yo nécessité pour yo di un mot côté que gagnon dans machin yo nan yon ti sitting yo te fait yo demandé pour monsieur Jovenel Moïse et ben comme c'est lui responsable tout bagay sa yo pour lui remettre kazek là parce que yo senti yo pas capable encore parce que c'est que yo cap fini le yo ses parents c'est vrai yo nan Grand'Anse mais le yo gagné nan moun nan Grand'Anse qui victime de ça et Raymond m'a tout profité partager justement yon cas avec nous côté que des moun nan Grand'Anse victime. Malheureusement c'est pas des cas qui parlent dans radio nous ka imaginer combien moun yo kidnappé et que kidnapping yo pas arrivé parler dans média et ben son jeune garçon au niveau la plaine yo kidnappé et famille en cotisé gen en famille en ki Canada yo cotisé yo collecté $40,000 américains yo demandé $100,000 et ben là yo voyel aller malheureusement monsieur estime l'argent trop petit et ben yo tué jeune garçon hein, et frère qui t'a négocié pour libération et ben rivé suite à ça semblait l'été cardiaque et ben li rivé perdu la ville tout li font crise côté que deux frères yon maman yon famille perdu deux petites à cause de situation donc marchand yo rappelé que yo même tout même si c'est vrai même yon yo pas ta victime directement mais indirectement yon nan communauté a donc fok l'état di un mot parce que ça pas ka continuer et m'a rappelé pour auditeurs auditrices qui attendent nous c'est ça donc nous toujours dit moun yo indifférence là pral mener nous loin parce que le nous penser nous dans département Grand'Anse ça qu'a passé dans pays a pas concerné et ben c'est comme ça nous réveiller nous avec une dure réalité je marchant nous réveiller avec réalité ça côté que c'est l'argent et ce compte qui dans main yo et yo bloqué pour nous finir Raymond m'a rappelé que il y a 3 contrôleurs financiers qui installés au niveau direction départementale ministère finance dans département Grand'Anse voilà donc Raymond on a cassé rendez-vous pour samedi prochain entre-temps on a dit moun yo kembe fèm n'a pas goumé, n'a pas résisté, entre-temps, nous-mêmes, continuer la vie, mais nous, continuer à suivre et méthodio, pendant que n'a pas résisté tout avec peuple haïtien, parce que nous connaissons diaspora, pour avoir un pile sous tête, nous, donc continuer goumé pour nous capables de construire Haïti nouvelle. Bonsoir.
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo di mwen, yap mache avèm. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin sa yo sécuritaire. Yap protégé vie nous avec toute famille nous. Vaccin sa yo gratis. Tant pris, relez pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, à Vermapmache.
Depuis province Ontario, ville Toronto, Emmanuel Bois pour samedi midi inter sous CKUT. Kabonou, tout détail avec de nouveaux développements sous situation COVID. Faut nous connaître que le professeur Ontario a frappé une troisième vague COVID très fort là. On va qui commencer depuis la fin mois février, arrivé dans début mois de mars. Faut nous connaître que nous avons une deuxième vague déjà, et fin deuxième vague, ça te permet deux, trois commerces relouvrir, il te permet l'école relouvrir, il te même permet de tes activités comme restaurant relouvrir. Mais scientifique qui te fait connaître, que te fait gouvernement connaître que s'il pas fait attention, bagay yo kavin pi grave dans le mois d'avril. Malgré ça, le gouvernement te continue tem face dans la réouverture. Et arrivé dans le début mois d'avril, bagay yo te commencé chaud. Kay yo te monté en pile et monté à l'hôpital, spécialement dans le salon de soins intensifs, de manière à ce que yo joigne soin. Dans bagay sa, dans mi-temps mois d'avril, le gouvernement d'Oxford là te mette en salon de stay at home, donc tout le monde rete chita la kay yo, de manière à ce que kayo ka fon baisser. Bagay sa ta supposé durer pour une période de 6 semaines qui donc li ta supposé finir dans zone 20 mai. Et nan bagay sa en pile magasin fermé, l'école pas fonctionné, si moun yo suivre l'école en ligne et mais par contre fon fait connait que population a réagi et yo pas fin trop content de toute mesure sa yo. En pile critique t'es tombé, en pile moun nan opposition t'es fait connait que mesure ça yo mette yo en place parce que c'est paniqué gouvernement paniqué yo fait qu'on est tout que yon nan pi gros problème c'est que dans zone qui chaud yo ça yo relé surtout pile Toronto avec York grand pile moun que yo relé travailleurs essentiels moun qui pa ka travail la kayo ki bi jap sorti chaque jour pour al travail et ben yo fait connait que moun sa yo pa gen congé payé nan bagay ça gouvernement sorti une loi qui voté jodi a côté li bay tout ça yo relé travailleurs essentiels yo jusqu'à $200 par jour pour un maximum de 3 jours. Malgré tout, il y a moun qui continue à faire petit plein, qui dit que 3 jours a pas assez et la réalité a c'est que les moun infecté avec COVID-19 ou gen droit faire jusqu'à 14 jours que ou besoin qu'on pas ca présenter dans travail. Doc Ford lui-même présente yo parwel depuis le ça, il paraît timidement dans télévision et dans date 25 avril côté il te font conférence pour la presse. Côté l'étape a quelques fois crié pour dire que le désolé de toute mesure ça yo qui te prend depuis le ayo Powell les annonces besoin faites pour bah évolution situation Covid là c'est ministre li yo qui paraît devant la presse en attendant chiffre yo continue à faire on descend et autorité au fait qu'on est que objectif yo c'est accélérer vaccination hein, et yo ta remet que toute population générale là commence à vacciner d'ici le 24 mai. Pour CKUT, samedi midi inter, c'était Emmanuel Bois.
Nous croyons fermement que la notoriété de quelqu'un, son influence et sa crédibilité auprès du public sont les principaux critères dans le choix d'un courtier immobilier résidentiel, commercial et hypothécaire. Confiez vos projets immobiliers à Louis-Yves Lucien et son réseau de 24 prêteurs bancaires et alternatifs. Il est courtier immobilier de Remax Invest et courtier hypothécaire de chez Multiprêt Hypothèque. Pour acheter ou vendre votre propriété résidentielle, locative, commerciale, financer, refinancer, renouveler votre hypothèque, relez Louis-Yves Lucien, c'est mon panou. Stratégie monsieur, c'est sous client le basé à bon genre résultat. Joignable pour consultation gratuite au 514-867-8352 ou au lylucien@gmail.com.
Perspective Jacques Mel 2030. C'est un baptême ça, initiative Nouvelle Réalité, réalisé un symposium journée jeudi 29 avril 2021 dans ville Jacques Mel. Et structure ça qui rivait créer dans l'idée pour rivait forcer l'État à travers tout pays à permettre service de base yo rivait joindre population hein, particulièrement si là yo k'ap vivre dans section communale yo zone qui pire qu'il est yo. Président structure si là qui s'est mettre Hannibal Kofi fait remarquer objectif symposium ça c'est pour permettre y a une tête ensemble qui rivait joindre en divers acteurs concernés yo dans département Sud-Est et puis discuter sous situation économique sociale politique département. Pays a très mal dirigé. D'après constat président Haïti, nouvelle réalité, a met Hannibal Kofi dit li fait constat sa yo, même gens ak divers l'autre parti politique ak organisation sociale yo, d'après constat yo, économie ak modernité, éducation citoyenneté ak solidarité, c'est quelque parmi thématiques qui t'est rivé réaliser et aborder dans activité si la a, d'après met Hannibal Kofi, qui parlait de yon document kap gen pour produit et puis soumettre li à toute l'autre parti politique organisation qui en dans société civile la. Sou bo pale, ancien premier ministre de facto pays d'Haïti à Jean-Michel Lapin, li même qui s'est délégué estricti si la a, dit la baye service li en dans estricti sa pour capable continuer aider pays à ancien premier ministre de facto a qui fait comprendre pour capable gain pays faut gain bon gens l'éducation à la santé toutefois les montrer travail y a travail là c'est pour l'autre génération monde river prendre tête pouvoir en passant par l'éducation qui t'a dû intérêt tout le monde n'a signalé Jean-Michel Lapin c'était premier ministre pendant un bon petit bout de temps sous pouvoir Jovenel Moïse là qui rivait dégrader toute institution en dans pays a course à pied concours bouillon foire agricole c'est quelque parmi dans un ensemble activité la mairie Jacques Mel comptait réaliser avant pendant et après journée fête agriculture travail là cap tombé samedi 1er mai cap vini là selon agent intérimaire villa Maki Kessa li montrer concours bouillon a privé fête à travers 11 sections communales qui en dans commune Jacques Mel là dans l'idée pour permettre gagner vivre ensemble en retourner encore d'après ça li dit la caille paysan yo gen en pile division et pour montrer que malgré toute situation pays d'Haïti a connaît la vie pas fini puis loin premier citoyen ville Jacques Mel la Maki Kessa encourager tout le monde qui prend plaisir fait business sous trottoir route dans ville Jacques Mel là soit pendant yo construit tunnel ou bien fait construction anarchique dans rentrée ville là li mandé yo pressé pour yo retirer matériel yo mettez yo et puis craser tunnel yo qui fait rentrée ville Jacques Mel la vin led magistrat ville Jacques Mel la menacé si pas gain rien qui fait bon côté occupant yo la mairie après fête 1er mai qui coïncide avec patronal ville Jacques Mel Saint-Jacques avec Saint-Philippe la mairie a la mairie après 1er mai qui s'est fait d'agriculture travail qui tombé bab pour bab avec fête patronale Saint-Jacques avec Saint-Philippe pral passer à l'action côté la crase tout petit caï qui construit anarchiquement dans entre ville là et saisit tout matériel qui encombre circulation en ville Jacques Mel chef paquet Jacques Mel la maître Lionel Jérima déclaré lui très préoccupé pour réalisation et organisation fête agriculture travail là qui tombé bab pour bab avec fête patronale Saint-Jacques avec Saint-Philippe samedi 1er mai la mairie, la délégation ensemble avec paquet Jacques Mel là déjà mobilisé pour définir un plan sécurité pour protéger visiteurs étrangers avec pèlerins qui a sorti tout côté pour venir participer dans activité culturelle yo chef paquet Jacques Mel là bail garanti pas gagne un branche cheveux qui a braché dans tête monde qui a venir participer à aucune chaîne fête traditionnelle si là Joannel François Ville Jacques Mel pour Radio CKUT Montréal.
Maintenant que nous avons dit au revoir à l'année 2020, recevons à bras ouverts l'année 2021. Cette année, Digicel International vous donne plus d'avantages et plus de primes à gagner. Envoyez